Le dernier amour, 11. Je savais dès lors tout ce qu'il m'importait de savoir. Le passé de cette liaison, le présent, les aspirations vers l'avenir, le degré actuel de sincérité, de lucidité ou d'entraînement de l'un et de l'autre coupable, les audaces, les sophismes, les craintes et les espérances, je savais tout. Mon rôle changeait de phase. Je n'avais plus à m'éclairer, l'enquête était finie. J'avais à examiner la cause en moi-même et à prononcer le jugement. Mais, quelque irrité et indigné que je fusse, j'étais un homme trop réfléchi pour ne pas voir qu'avant de juger les coupables, il fallait juger l'importance du délit, et avant cela encore, juger l'espèce humaine. Il fallait même remonter plus haut et se perdre dans la contemplation de l'infini. Car nous ne pouvons définir l'homme sans mettre Dieu en cause. Je ne pouvais procéder que d'après mes propres lumières, et je n'avais pas attendu jusqu'à ce jour pour me fixer dans ma croyance. Ni spinoziste, ni cartésien, je procédais pourtant en grande partie, comme tous les hommes de mon temps, de l'un et de l'autre système, et je m'étais complété par la doctrine du progrès, qui semble devoir accorder les deux doctrines. En effet, s'il est certain que Spinoza ait raison en faisant la liberté et la responsabilité de nos consciences moins absolues que ne l'admet Descartes, et si Descartes a raison aussi d'étendre, plus que ne le fait Spinoza, le domaine de cette responsabilité et de cette liberté, nous ne trouvons ni chez l'un ni chez l'autre le dernier mot de cette grave question. Le catholicisme est cartésien en ce sens qu'il admet la responsabilité absolue, partant le châtiment éternel. Le catholicisme ne résout donc rien, puisque le châtiment éternel est repoussé par la raison, par le sentiment et même par l'expérience, procédant par analogie. Les nouvelles philosophies admettent toutes une notion supérieure, et il ne faut être ni bien érudit ni bien subtil pour être frappé de la vérité qui se dégage des principales études de notre époque. C'est une vérité claire, basée sur l'expérience, c'est-à-dire sur la critique de l'histoire des hommes, et qui a cette rare puissance d'expansion que la raison et le sentiment l'acclament aussitôt. L'homme n'est ange ni bête, eût dit Pascal. Nous disons en somme aujourd'hui la même chose, et nous le disons tous, ou à peu près tous. L'homme subit en grande partie la fatalité de ses instincts. Son âme n'est pas absolument libre. En certains cas, beaucoup trop fréquents pour qu'on les dise exceptionnels, cette âme n'est même pas du tout libre. Et pourtant, Spinoza est, sinon condamné, du moins dépassé et rectifié. L'homme est un agent moral. Quand il n'est pas, en tant qu'individu, responsable de ses pensées et de ses actes, il est susceptible, en tant que membre de l'humanité, de le devenir. L'espèce a été créée perfectible. L'homme est donc virtuellement libre. Chaque siècle, chaque heure de son existence ôte une écaille de ses yeux, adoucit une rudesse de son instinct, développe une lumière de sa raison, une puissance de son cœur. Cela ne paraît pas toujours dans l'ensemble, mais cela est. Même aux époques qui semblent pencher vers la décadence, un travail souterrain répare en préparant. La vie de l'humanité a ses hivers plus ou moins rudes, ses printemps reviennent toujours, et comme le milieu de l'homme progresse insensiblement, l'homme, qui a la sensibilité, progresse sensiblement et insensiblement à la fois. Une société peut être gangrénée, elle peut se dissoudre et disparaître. La vérité a marché quand même. N'eût-elle qu'un représentant debout, elle existe, elle se répandra, elle formera des sociétés nouvelles. Les cataclysmes ne détruisent pas les lois divines. Ils n'altèrent pas plus l'essence des choses morales et intellectuelles qu'ils n'altèrent l'essence physique. Non seulement ces vérités ne périssent pas, elles montent et s'épurent. La conséquence de mon humble philosophie personnelle était bien facile à déduire. Si les coupables que j'avais à juger étaient, à n'en pouvoir douter, deux esclaves de l'instinct, deux victimes de leur organisation excessive ou défectueuse, ils n'en étaient pas moins deux êtres intelligents qu'une meilleure éducation et un milieu plus propice eussent pu affranchir de la servitude de leurs appétits. En méprisant jusqu'au dégoût la fantaisie maladive qui leur avait fait méconnaître le bonheur conjugal pour se jeter dans les bras d'adultère l'un de l'autre, j'étais obligé de me rappeler que j'avais devant les yeux un homme qui eût pu, avec l'aide d'une autre destinée sociale, devenir un très honnête homme. Une femme qui, dès l'enfance, préservée par l'amour paternel des dangers de l'isolement, eût pu rester pure et ne pas subir, le reste de sa vie, la fatalité morale et physique d'une première faute. La liberté morale subsiste. Mais elle peut être étouffée chez l'individu par l'absence de secours intellectuels, par la contagion despotique du mal. Devant ce problème, je n'avais pas à examiner la question suprême du mariage et à me demander si l'indissolubilité qui le frappe était praticable pour le sentiment. Il redevenait une question de fait, d'ordre public. L'adultère caché échappait au contrôle du législateur. L'époux redevenait juge dans sa propre cause. Je me voyais investi d'un droit terrible, mais tout droit et corrélatif d'un devoir. Je cherchais à bien définir et à bien connaître mon devoir. Nous marchons tous, et quelques-uns de nous, très vite. J'avais dépassé mon demi-siècle. Le temps n'était plus où je me plaisais à la lecture d'un roman intitulé « Jacques », qui a fait quelque bruit et qui m'a ému dans ma jeunesse. C'était une œuvre de pur sentiment que l'auteur a refaite plusieurs fois sous d'autres titres, et avec des réflexions, on pourrait dire des acquisitions nouvelles qui ont dérouté les critiques inattentifs. J'avais assez bien compris l'ensemble de son œuvre et suivi la marche de ses idées. Donc, l'opinion de Madame Sand, ou pour mieux dire, ses aperçus et ses recherches, n'étaient pas sans importance pour moi. Mes instincts se rapportaient assez aux siens, et j'avais lu et commenté Jacques, comme tout mari tant soit peu littéraire l'a lu et commenté en son temps. C'était une époque encore agitée par l'irruption des vues passionnées du romantisme, l'époque provenant des René, des Lara, des Werther, des Obermann, des Childe-Harold, des Rolla, type des meurtris, des désespérés ou des fatigués de la vie. Jacques était un petit bâtard de cette grande famille de désillusionnés qui avaient eu leur raison d'être, historique et sociale. Il entrait dans le roman déjà pâli par les déceptions. Il croyait pouvoir revivre à l'amour et il ne revivait pas. Il était l'Obermann du mariage, ou plutôt le mariage n'était pour lui que la goutte de fiel qui fait déborder la coupe. Il se tuait pour laisser aux autres un bonheur dont il ne se souciait plus, auquel il ne croyait pas. S'il avait en lui quelque instinct de grandeur, c'était son désintéressement de la vie. Impropre à la lutte, il n'acceptait pas le devoir. Mais il se faisait justice, et la morale du livre eût pu être celle-ci. « Puisque tu ne sais pas vouloir, tu n'as pas le droit de vivre. » On a voulu faire de ce roman une thèse pour ou contre le mariage. Je crois que l'on s'est beaucoup trompé. L'auteur ne s'élevait pas si haut et n'en cherchait pas si long. Il était jeune et il appartenait à une littérature qui n'avait pas encore vieilli. J'ai dit que mes instincts de jeunesse avaient répondu à ceux de Jacques. Plus tard, ils avaient été ravivés par le dénouement d'un très beau drame d'Alexandre Dumas, le comte Hermann, un Jacques plus vivant, plus instinctif et plus audacieux que celui de Madame Sand. Car il s'immolait par pur héroïsme, sans avoir ressenti d'avance le dégoût de la vie. En somme, ces martyrs volontaires de l'amour trahi n'étaient pas fous. Tout cœur généreux, déçu dans sa foi, éprouve immédiatement la soif de mourir. À l'époque que je vous raconte, ces fictions littéraires eussent pu trouver encore en moi un écho de sentiment. J'avais été romantique, comme tout le monde. J'étais, je suis resté romanesque. La raison de l'âge mûr n'avait pas plus émoussé ma sensibilité que ne l'a fait depuis le poids de la vieillesse. Il est donc certain que, si j'eusse écouté la voix qui sanglotait au fond de mon cœur et celle qui murmurait des imprécations dans mes rêves, j'aurais monté à la prairie de la Quille et j'aurais cherché dans le glacier voisin la mort ignorée que me souhaitait mon rival et qu'eût accepté ma femme. Mais j'étais devenu un homme. La lâcheté, ou plutôt l'inutilité du suicide, m'était apparue, en même temps que la notion du devoir s'était agrandie et formulée. Je sortis vainqueur de la tentation qui me guettait dans le trouble du sommeil. Éveillé et lucide, je ne m'y arrêtai même pas un instant. Un autre personnage de l'auteur de Jacques eût pu venir, plus tard ou plus tôt, m'influencer quelque peu. Valvèdre ne recommence pas Jacques. L'infidélité de sa femme rend la vie à son cœur. Il couve et garde un autre amour. La question du divorce est soulevée. Les personnages appartiennent à cette législation et peuvent en profiter. L'époux trahi ne croit pas devoir rompre des liens qui établissent sa protection sur sa femme. Il l'assiste à sa dernière heure. Il ne se remarie que quand il peut donner une autre mère à ses enfants. L'adultère, cette fois, a puni et tué l'épouse. L'époux a triomphé de la colère et de la douleur. Ma situation n'était point la même, tant s'en faut. Tant qu'elle avait réussi à me tromper, ma femme ne m'avait pas rendu malheureux, et aucune autre ne devait plus me présenter l'idéal d'une meilleure existence. À quoi pouvais-je désormais me rattacher dans la vie qu'on venait de briser? À rien autre chose que le devoir, un devoir aride, effrayant et sans aucune compensation tangible. Ce devoir, quand ma conscience l'eut élucidé, n'était ni de châtier ni d'absoudre. Comme il est impossible d'apprécier la dose de résistance intellectuelle et morale qu'une conscience humaine plus ou moins éclairée peut opposer à la violence brutale de l'instinct, il est impossible aux philosophes et aux physiologistes de prononcer avec certitude une condamnation quelconque en matière criminelle. Le législateur l'a reconnu en séparant le juge du bourreau d'une manière radicale. Le jury vote sur l'existence ou la non-existence de l'acte qui emporte telle ou telle peine. Le magistrat ne juge rien. Il applique un texte de loi. Tout repose sur un calcul de probabilité plus ou moins réussi. On serait embarrassé pour soi-même de décider pourquoi l'on fut lâche ou brave un tel jour. L'examen de conscience d'une âme vraiment délicate est parfois un travail sérieux et qui nous laisse quelques doutes. Comment donc faire ce travail pour un autre? Eussiez-vous toute sa confiance et fussiez-vous assuré de sa sincérité? Je ne pouvais donc pas châtier ce que mon cœur et ma raison condamnaient pourtant sévèrement. Le crime seul tombait sous la coulpe de mon blâme, le droit de punir les coupables m'échappait. Je ne pouvais pas davantage absoudre, les mêmes raisons s'y opposaient. Je savais avoir affaire à deux êtres très intelligents sous plus d'un rapport, et à qui les bons conseils et les bons exemples n'avaient pas toujours manqué. Il y avait eu une dose de lumière et de liberté dans ses âmes, même dans celle de Tonino. Il méritait à coup sûr de sanglants reproches et quelques rudes leçons. Cela suffisait bien à mon ressentiment légitime. Outre que je n'admets pas la peine de mort, je n'ai jamais eu le goût de tuer, de frapper ou de torturer. Je me fais une telle idée de la dignité humaine que je ne connais pas d'expiation comparable à celle de se voir flétri à bon droit par le dédain d'un homme juste. D'ailleurs, eussé-je eu, selon moi, le droit de tuer mon rival, je ne l'eusse pas fait. Il était père de famille, et sa femme l'idolâtrait. Elle était pure, et vraiment digne et dévouée, cette Vanina. Elle nourrissait une innocente créature à qui l'on avait donné mon nom et que ma bouche avait béni. Je me représentais l'horreur d'une scène de violence dont cette famille eût pu être témoin et victime. Je me souciais fort peu de ce que l'on pourrait railler en moi si l'on venait à découvrir le secret qui souillait mon intérieur. Un homme qui se respecte aussi scrupuleusement que je l'ai fait toute ma vie sait très bien qu'il aura sa revanche devant l'opinion. Ce n'était pas, on l'a bien vu, pour préserver ma réputation. C'était pour empêcher le public d'avilir et de briser ma malheureuse femme que j'avais réduit par la force Sixte Mort au silence. Quand je me fus mis en présence du blâme à infliger et de la leçon à donner, je dus séparer les deux causes et faire une distinction entre les coupables. Lequel était le plus coupable? Par le fait et en apparence, c'était Tonino. La perversité de ses instincts était flagrante. Mais, comme intelligence et comme raisonnement, il était très inférieur à Félicie. Sa conscience avait été moins avertie. Son éducation morale, entreprise tardivement par moi, avait été interrompue et vite effacée par les circonstances. S'il trouvait dans sa femme une tendresse aveugle, il n'y trouvait aucune résistance sérieuse à ses mauvais penchants, aucune vive lumière pour se diriger. Il était réellement l'élève et la création de Félicie. C'est elle seule qui eût pu le rendre chaste, sincère et désintéressé. Elle n'avait pu lui donner la droiture et la chasteté qu'elle n'avait pas. Le désintéressement qu'elle avait, elle n'avait pas su le lui faire aimer et comprendre. Au lieu d'agir sur lui par l'esprit, elle l'avait laissé réagir sur elle par les sens. Le jour où j'avais surpris cet enfant de son cœur baisant ses cheveux, j'avais surpris aussi un sourire mêlé à la répression, un sourire ému et lascif qui ne m'avait pas trompé et que je n'aurais jamais dû absoudre. C'était peut-être le premier encouragement involontaire donné à cette passion dont elle devait subir la honte. Mais, à coup sûr, dès ce jour-là, Félicie appartenait à son prétendu fils adoptif. Le sentiment d'adoption maternelle était profané et devenait une triste et lâche imposture. Hélas, oui, cette femme était moins excusable que son complice. Si celui-ci avait eu l'initiative de l'attaque, il avait obéi à l'instinct viril, à la curiosité délirante de la puberté, à une première explosion des sens que Félicie avait subie jadis à ses dépens et dont elle connaissait bien le danger. Elle n'avait su ni réprimer cette explosion chez Tonino, ni l'épurer par une franche acceptation de l'avenir qu'il rêvait. « Il était trop jeune, trop inconsistant, » m'avait-elle dit alors, « pour qu'elle pût songer à en faire son mari. » Il fallait pourtant ou l'éloigner sans retour et sur l'heure, ou l'éloigner provisoirement et sanctifier sa passion par une promesse. Mais non, elle s'était éprise en ce temps-là d'un autre qui ne songeait point à elle. Elle avait vu en moi un être qui lui avait paru très supérieur à Tonino et à elle-même. Elle m'avait aimé avec son orgueil et par besoin de chercher sa réhabilitation plus haut que dans son milieu. M'avait-elle vraiment aimé? Pourquoi non? Elle avait eu l'aspiration au vrai, la curiosité de l'esprit, comme Donino avait eu celle des sens. Je me rappelle l'ardeur avec laquelle ses yeux m'interrogeaient quand je parlais devant elle. Puis ses questions, ses objections, son ergotage, ses soumissions enthousiastes, ses luttes renaissantes, les révoltes et les abandons de son âme troublée, ses inintelligences systématiques, ses élans généreux, ses feintes humiliées, ses sourdes colères, ses lassitudes affectées, ses réveils spontanés. Tout ce monde de pensées et de sentiments que nous avions remué ensemble dans nos longs entretiens et dans nos irréprochables tête-à-tête. Elle avait alors énormément pris sur elle, soit qu'elle eût joué une habile comédie, soit qu'elle eût résolu de dompter ses instincts, car elle m'avait semblé la plus chaste des femmes, et jamais impureté secrète ne fut mieux cachée. Même dans l'effusion d'amour sanctionnée par le mariage, Félicie avait su jouer son rôle. Elle avait soigneusement gardé avec moi le charme de la pudeur. Et en y songeant bien, je concevais qu'elle eût pu comprendre et goûter à son tour le charme des voluptés exquises sans s'imposer l'effort de la ruse. Il y avait tout un côté de son être, délicatement perfectible, par lequel elle appréciait la passion vraie, la sainteté de l'amour exclusif. N'était-elle pas d'autant plus criminelle de vouloir compléter sa vie par les âcres plaisirs de l'adultère? Peut-être gardait-elle ceci comme un droit. L'idée admise par certaines écoles philosophiques de développer l'être dans toutes ses manifestations et de le satisfaire dans tous ses appétits avait pu être admise aussi par cette femme incertaine et troublée. Mais aucune doctrine de liberté, quelque cynique qu'elle fût, n'a jamais admis l'imposture systématique. Les partages de sentiments, les promiscuités les plus éhontées, ne se sont jamais mises en principe sous la protection d'un époux trompé. Félicie avait regardé comme un grand bienfait de mon affection, comme un grand honneur rendu par moi à son caractère, le mariage qui nous liait. Elle ne voulait pas renoncer à ses avantages. Elle les conservait au prix du mensonge. Pouvait-elle se croire innocente et seulement excusable? Elle avait des remords, mais insuffisants pour la retirer du mal. Elle avouait elle-même qu'au jour de sa passion satisfaite, elle avait été insouciante comme un oiseau, et s'était sentie pure comme une fleur. Elle était entrée alors dans cet état de l'âme que, ne l'ayant pas connue, je ne pouvais pas juger. L'enivrement absolu. Ce qui me la faisait paraître plus lâche et plus inique, était-il précisément ce qui devait me rendre plus compatissant et plus miséricordieux? Quand on rencontre un homme ivre, prêt de tomber dans l'eau ou de se faire écraser par les voitures, on sait bien qu'il a perdu la force et la raison par sa faute. Et cependant, on le retire du danger, la pitié faisant taire le mépris ou le dégoût. Hélas, l'ivrogne aussi croit développer sa vitalité et compléter son rêve en détruisant son intelligence. Pour le philosophe impassible, il n'y a là qu'un imbécile qui se trompe. Comme les sauvages qui ne savent pas que l'ivresse conduit à la mort ou à l'imbécilité, Félicie avait voulu boire l'eau de feu. Mais les pauvres Indiens ignorent-ils réellement le désastre qui les attend? Ne voient-ils pas succomber leurs frères? Une première expérience faite sur eux-mêmes ne les éclaire-t-elle pas? Et pourtant, on voit de nobles races s'éteindre ainsi tout entières. L'Indien est beau, brave, intelligent. L'héroïsme se traduit chez lui en cruauté, la sobriété stoïque aboutit à l'intempérance. Il a l'hospitalité antique, et vous n'êtes pas en sûreté chez lui, car il a l'imagination déréglée. Et pour un rêve qu'il a fait la nuit, il assassine l'hôte qu'il chérissait la veille. J'étais forcée de comparer Félicie à ces natures généreuses mais incultes, qui offrent l'effrayant accord des dons sublimes et des perversités farouches. nous n'avons qu'un critérium pour juger les autres et nous-mêmes. Plus l'être est développé en intelligence et favorisé de la nature, moins ses fautes nous paraissent pardonnables. Et il ne nous semble pas que Dieu, dont la conception ne se déduit pour nous que de l'examen et du sentiment de notre propre justice, puisse avoir une autre justice que nous. Mais n'est-ce pas là une erreur fatale et qui fait injure à la divine mansuétude de celui qui ne punit pas ? Punir. Je crois vous l'avoir dit déjà plus d'une fois. C'est la plus amère douleur d'une âme généreuse. L'homme qui se plaît à rendre le mal pour le mal, qui trouve sa volupté dans les supplices qu'il inflige ou voit infliger, l'inquisiteur qui sourit au bûcher, le juge qui triomphe en arrachant une condamnation à mort, Dieu les renie sans doute 100 fois plus que leur victime, fût-elle 100 fois coupable. Comment admettre Dieu insensible à la douleur, si on l'investit des devoirs du juge? Et pourtant, le souverain bien ne peut pas souffrir. Donc, nous avons sur Dieu les notions les plus contradictoires. Nous avons besoin de concevoir sa justice basée sur les mêmes errements que la nôtre, et s'il l'exerçait à notre manière, nous perdrions tout amour et tout respect pour lui. Je m'abîmais dans ces méditations douloureuses, et peu à peu, la douleur portait ses fruits amers, mais toniques pour les âmes droites. La pitié l'emportait sur l'indignation en ce qui concernait Félicie. Quant à son complice, je devenais de plus en plus dédaigneux et glacé. Sa souriante perversité le dégradait tellement à mes yeux que je voyais de moins en moins en lui un de mes semblables. Pour Félicie, ce mot des bonnes gens qui apprécient les mérites évanouis me revenait machinalement aux lèvres. Quel dommage ! Pour Tonino, en me rappelant tout le passé, je me disais « Cela devait être ». Pour celui-ci, aucun châtiment profitable n'étant admissible, il n'y avait à lui appliquer que les mépris de la répression. Je me rendis chez lui, et je lui parlais ainsi. « Vos discussions d'intérêt avec ma femme me fatiguent et me blessent. Je ne veux pas que son repos soit plus longtemps troublé par vos projets de fortune. Vous lui contestez un remboursement dont j'exigerai qu'elle vous tienne quitte. Vous lui demandez pour d'autres entreprises une somme que je vous accorde de sa part. Mais c'est à une condition. Vous partirez dès ce soir pour le pays qu'il vous plaira de choisir à 100 lieues au moins d'ici. Vous préparerez un établissement provisoire ou définitif d'ici à 6 semaines. Et dans 6 semaines, j'y conduirai votre femme et vos enfants. À partir du moment où nous voici, vous ne reverrez pas Félicie. Ou, devant elle, je vous infligerai l'outrage que méritent ceux qui manquent à leur parole. Car vous allez me donner la vôtre, si vous voulez toucher les 20 000 francs que vous lui demandez, et recevoir la quittance des 5 000 que vous lui devez. » Tonino était pâle comme la mort. Il comprenait. Il avait un tremblement convulsif d'épouvante, mêlé à une certaine joie inquiète. Il voulut parler. Je l'interrompis. « Donnez-moi votre parole d'obéissance. »«
Mais...
la donnez-vous ? » ?»«
Je la donne. » »«
Parlez à votre femme. Prenez votre bâton et votre sac de voyage. Je veux vous voir partir. Vous avez 1 quart d'heure. »«
Ma femme va être bien inquiète. Je ne sais comment lui dire. »«
Appelez-la ici. Je lui parlerai moi-même. »«
Monsieur Sylvestre... »
« Ne prononcez pas mon nom. Obéissez. »
Il obéit.
« Vanina, dis-je à la jeune femme, je fais partir votre mari pour une affaire qui ne souffre pas 1 minute de retard. Sa fortune, l'avenir de vos enfants, dépendent de ce voyage, et la promptitude assure absolument le succès. Ne vous alarmez de rien. Réjouissez-vous, au contraire. » Gardez pendant quelques jours le secret sur ce départ.
Votre mari vous écrira de sa première étape, et dans 6 semaines, vous serez réunis. J'en réponds. »
Tonino confirma mes paroles, embrassa sa famille avec agitation, prit quelque argent et boucla son sac de voyage. Nous partîmes sur la route d'Italie.
« C'est par là que vous allez ?» lui dis-je.
« Oui, je veux aller d'abord dans mon pays pour donner un air de vraisemblance à mon voyage. »«
C'est bien vu, mais votre pays est trop près. Je ne vous permets pas d'y rester plus de 24 heures. » »«
J'irai en Vénétie. Nous avons là des parents éloignés et un reste de famille. J'ai besoin d'une notoriété quelconque pour m'établir. »«
Allez !»
Et comment recevrai-je là la somme et la quittance?
Je vous les porterai en vous conduisant Vanina et vos enfants.
Mais toutes les choses que je laisse, mes affaires en train, mon bétail, mon mobilier.
Je me charge de tout comme si vous étiez mort et que j'eusse à liquider la situation de votre famille.
Il y aura bien du préjudice.
On vous le paiera.
Vous consentez à ce que je vous écrive?
Non, vous n'écrirez qu'à votre femme. Toute infraction à mes volontés annulera mes promesses.
J'obéirai, dit-il. Voulez-vous me permettre de vous remercier?
Je vous le défends, au contraire.
Il hésita un instant à s'éloigner et tenta je ne sais quelle comédie. Il plia le genou devant moi et pleura de vraies larmes. Il pleurait à volonté, comme les femmes.
Relevez-vous, lui dis-je, et partez.
Eh bien, s'écria-t-il, frappez-moi, crachez-moi à la figure, foulez-moi aux pieds, j'aime mieux cela que votre indifférence.
Je lui tournai le dos, il prit son parti et disparut.
Je retournai auprès de Félicie. Je ne lui dis rien, je vaquais à mes occupations habituelles. J'étais bien sûr que Tonino ne lui écrirait pas. Il la redoutait. Peut-être la haïssait-il. Dans tous les cas, il s'applaudissait d'un dénouement qui l'enrichissait au gré de son ambition, en le délivrant du tourment de feindre la passion qu'il n'éprouvait plus. Quant à la honte que je lui infligeais, elle était sans doute déjà bue. Quelques jours s'écoulèrent dans un calme apparent. J'avais remarqué chez Félicie des phases de douceur et de tranquillité que je m'expliquais maintenant. Elle éprouvait par intervalles le besoin d'oublier Tonino, et presque toujours, après une entrevue orageuse, elle évitait de penser à lui et s'abstenait d'en parler. Sa nature fiévreuse exigeait ses phases de repos. Quand les forces étaient réparées, elle s'agitait de nouveau pour le revoir en secret, ou pour s'occuper ostensiblement de ses affaires et de sa conduite. Je laissai passer ces quelques jours, et quand elle me dit qu'elle était inquiète des enfants et s'étonnait de n'en pas entendre parler, je lui appris que Tonino était parti.
« Parti? Où donc ?»«
Pour très loin, et pour ne pas revenir. » Elle tomba sur son siège comme foudroyée. Je n'oublierai jamais l'expression de ses yeux clairs et profonds, qui me demandaient avec une terreur ingénue « L'avez-vous tué? Et allez-vous me tuer aussi ?» Et comme mon regard, à moi, ne lui révélait rien d'effrayant, elle eut un sourire égaré et joignit les mains comme pour rendre grâce à Dieu de ne s'être pas trahi. Il faut admirer comme les coupables sont parfois stupides, et comme il croit aisément se jouer des honnêtes gens. Elle ne comprit rien à mon air tranquille, et me demanda en balbutiant l'explication de l'étrange nouvelle que je venais de lui apprendre.
« Ma chère amie, lui dis-je, il fallait en finir avec une situation pénible. Vous m'avez caché, par générosité, vos peines secrètes, mais je les ai depuis longtemps pénétrées. »
Elle se crut encore perdue.
« Ah oui » s'écria-t-elle en tombant comme prosternée devant moi. « Vous savez tout, je le vois bien. »
« Pourquoi cette attitude de repentir ou de désespoir ? » repris-je. « De quoi et à qui demandez-vous pardon ? »
Elle se releva, effrayée de son trouble, et recommença à me regarder étrangement.
« Vous n'avez, repris-je, aucun tort que je sache dans cette situation, ou si vous en avez envers Tonino, je ne puis en être juge. J'ai vu que ce jeune homme était très mécontent de son sort, malgré tous les sacrifices que vous aviez faits pour le satisfaire. Vous vous êtes plaint amèrement à moi de son ingratitude, et je vous ai vu redouter le préjudice que son ambition pouvait vous porter. J'ai réfléchi, et je l'ai interrogé. J'ai su ce qu'il voulait. Il est dégoûté du pays et de sa condition actuelle. Il veut de l'argent comptant et sa liberté. Je lui ai conseillé de partir. Il est parti. Je lui ai promis l'argent dont il vous disait avoir besoin. Vous le lui enverrez. Vous serez ainsi délivré de ses plaintes et de vos impatiences, de ses obsessions et de l'indignation qu'elles vous causaient. Vous ferez un sacrifice nécessaire à votre repos et au mien. Sacrifice qui me paraît peu de chose auprès des avantages que vous en retirerez sous tous les rapports. » Je m'étais préparé à tout en parlant ainsi. Et pourtant, l'effet de ma déclaration me surprit extrêmement. Au lieu de se résigner à un arrêt si modéré et de comprendre qu'elle ne pouvait pas trop payer le silence et l'éloignement de son complice, Félicie se révolta contre le sacrifice d'argent que je lui imposais. Elle, si généreuse et si désintéressée, car elle l'était toujours, elle se sentit humiliée d'avoir à compter avec celui dont elle avait subi la flétrissure, et qui, de la prière et de la soumission, semblait passer au commandement et à la menace. Sa richesse avait été une puissance, une arme entre ses mains, et plus encore, hélas, un moyen de séduction ou d'intimidation qu'elle avait sans doute rougi de compter pour quelque chose dans ses honteuses amours, et qui avait pourtant compté pour beaucoup, elle me le laissait voir. Elle défendit donc avec énergie le seul moyen qui lui restait de ramener l'ingrat à ses pieds. Oui, elle défendit son argent avec âpreté, assurant que je m'étais trompée sur la gravité de ses discussions avec Tonino, et que je ne pouvais pas parler sérieusement en la condamnant à céder à des exigences aussi déplacées. « D'ailleurs, ajouta-t-elle, vous vous trompez encore bien plus si vous croyez que nous aurons acheté la paix. Tant qu'il me restera un pré ou un champ, il rêvera de me le faire vendre pour l'aider dans ses spéculations. Plus il obtiendra, plus il comptera obtenir, et avant 2 ans, vous le verrez revenir ici pour nous supplier. » La malheureuse se flattait de cet espoir. Je n'hésitais pas à le lui ôter. Je ne voulais pas punir, mais je voulais faire cesser le mal. « Vous savez, lui dis-je, que Tonino est très poltron. S'il revient, je le menacerai, et cela suffira pour l'éloigner à jamais. Vous n'ignorez pas qu'il est certains hommes qui ne peuvent pas lutter un instant contre certains autres hommes. Je le lui ai fait sentir. Il ne reviendra pas, et il ne vous écrira jamais. Quant à s'adresser à moi pour obtenir d'autres sommes, je doute en effet qu'il y renonce, mais cela importe peu. Je me ferai juge de ses besoins, et s'ils sont réels, vous comprendrez qu'il faut venir à son aide. Quand vous lui donneriez la moitié ou les 2/3 de votre fortune, vous auriez encore de l'aisance, et je ne vois pas pourquoi vous regretteriez d'enrichir le seul parent qui vous reste.
« Sylvestre, vous êtes fou !» s'écria Félicie hors d'elle-même. « Vous méprisez l'argent jusqu'à la folie. Vous croyez donc que je dois quelque chose à Tonino, quand c'est lui qui me doit tout? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là, de me placer à jamais dans la dépendance d'un ambitieux résolu à me dépouiller? Où sont les droits de Tonino sur mon existence, sur les fruits de mon travail et du vôtre ? Sans parler de celui de mon frère, qui devrait nous être sacré.
Vous garderez l'île Morgeron votre vie, ou du moins ma vie durant, je vous le promets. Mais le reste est superflu pour nos besoins. Nous n'avons ni ambition, ni postérité, ni goût de luxe, ni infirmité.
Nous pourrions vivre de très peu, je vous assure. »
Vous avez l'air de vous moquer. Pourquoi donc cette tendresse soudaine, cette tolérance sans bornes pour Tonino, que vous n'aimiez guère il y a quelques jours?
J'ai réfléchi, vous dis-je. J'ai pris pitié de lui en voyant que vous ne l'aimiez plus vous-même.
Vous avez vu clair, Dieu m'est témoin que je ne l'aime pas.
Eh bien, que vous ayez tort ou raison, je l'ignore. Mais vous l'avez beaucoup aimé dans son enfance. Vous l'avez habitué à compter sur vous. Il n'a compris le travail qu'avec votre aide, l'avenir qu'avec votre garantie. Il n'était pas né stoïque. Votre tendresse l'a empêché de devenir homme. Vous pensez qu'il ne la mérite plus, soit. Mais il est trop tard pour que vous lui en retiriez les témoignages et les effets. Pour lui, ses effets et ses témoignages s'appellent argent. Vous êtes forcé de lui donner de l'argent.
Et si je ne lui en donne pas?
Il se plaindra de vous, Félicie. Il dira qu'en d'autres temps, vous avez été meilleure pour lui. Et comme il va demeurer loin, je ne pourrai pas l'empêcher de vous maudire et de vous accuser à mon insu.
Ainsi, pour avoir été envers lui une bonne et tendre mère, il faut que toute mon existence lui appartienne.
Réfléchissez. Ce mot fit tomber l'audace ingénue de sa défense. Elle douta de ma simplicité. Elle eut un frisson. Et, profondément humiliée de sa situation, elle alla ouvrir la fenêtre pour respirer.
« Que voulez-vous ? »
repris-je, un peu cruel dans ma patience. « Il faut savoir payer ses plaisirs en ce monde. »«
Ses plaisirs ? » s'écria-t-elle effarée.
« Les plaisirs purs comme les plaisirs impurs, tout se paye. Ça a été pour vous une douce joie d'adopter cet enfant et de vous croire sa mère. Ce bonheur a duré des années. Il a constitué des droits au fils adoptif. » Elle respira. Elle admira ma candeur, mais elle n'osa plus la discuter. Et le lendemain, dévorée d'une inquiète curiosité, elle alla trouver la vanine.